Alors qu'une nouvelle vague de froid balayait le grenier à foin, Gawain ouvrit les yeux dans l'obscurité. Normalement, les murs épais de l'étable barraient la voie au pire des rigueurs nocturnes. Le pire, rien de plus. En bas, des hommes murmuraient, et ils ne semblaient pas énervés. Levant la main de l'épée qui reposait près de lui, Gawain remonta ses gantelets. Comme tous les autres membres de la jeune garde, il dormait dès qu'il en avait l'occasion. Très probablement, on était juste en train de réveiller des types pour la relève, mais il se sentait frais et dispos et doutait de pouvoir se rendormir. De toute façon, son sommeil était toujours agité à cause de sombres cauchemars et de l'image récurrente de sa bien-aimée. Ignorant où se trouvait Egwene, il ne savait même pas si elle était en vie, et encore moins si elle lui pardonnerait. Il se leva, laissa la paille glisser le long de son manteau, puis boucla son ceinturon d'armes. Alors qu'il se faufilait entre les hommes endormis sur l'empilement de balles de foin, un léger bruit lui indiqua que quelqu'un gravissait l'échelle. Bientôt, un torse apparut et s'immobilisa pour l'attendre.
« Seigneur Gawain, »
fit Rajar de sa voix profonde, avec l'accent domani que 6 ans d'entraînement à Tarvalon n'avait pas affecté. La voix du premier lieutenant était toujours une surprise quand elle sortait du corps malingre d'un type qui arrivait à peine à la taille de Gawain. Malgré ça, en d'autres temps, Rajar serait devenu un champion.
« Je me suis dit qu'il fallait vous réveiller. Une Aes Sedai vient d'arriver à pied avec un message de la Tour Blanche. Elle voulait parler à la sœur responsable ici. J'ai chargé Tommy et son frère de la conduire chez le maire. »
Gawain soupira à Pierre Fendre. Quand il était retourné à Tarvalon, découvrant qu'on en avait expulsé la jeune garde, il aurait dû rentrer chez lui, au lieu de se laisser coincer par l'hiver, surtout en ayant la certitude qu'Elaïda voulait leur mort à tous. Si elle n'y était pas déjà, Elaine finirait par venir à Kemlin. Sans nul doute, tout Aes Sedai aurait fait de son mieux pour que la fille héritière atteigne la capitale à temps pour revendiquer la couronne et brûler la politesse à la concurrence. Si c'était possible, la Tour Blanche ne renoncerait pas à voir une sœur montée sur le trône. Certes, mais Elaine pouvait aussi être en chemin pour Tarvalon, voire résider déjà à la Tour. Sans savoir comment elle s'était trouvée liée à Siouan Sanche, ni dans quelle mesure, quand elle sautait dans une mare, elle ne mesurait jamais sa profondeur, Gawain avait une certitude. Fille héritière ou non, Elaïda et le hall de la Tour lui imposeraient un interrogatoire serré. Même chose si elle devenait reine. Cela dit, on ne la jugerait responsable de rien, puisqu'elle était encore une acceptée. Pour y croire, Gawain devait se répéter ça souvent. À présent, une armée se dressait entre lui et Tarvalon. 25 000 soldats au moins de ce côté du fleuve Erinin, et très probablement autant sur la rive ouest. Des partisans de celle qu'Elaïda appelait des renégates. Qui d'autre aurait osé assiéger Tarvalon? L'apparition de cette troupe, sortie du néant au milieu d'une tempête de neige, donnait encore des sueurs froides à Gawain. Une grande armée en marche inspirait toujours des rumeurs et des propos alarmistes. Certes, mais celle-ci s'était matérialisée en silence, comme une armée de fantômes. Cela posé, elle était bien réelle, lui interdisant d'entrer en ville pour voir si Elaine y était et de chevaucher vers le sud. N'importe quelle armée aurait remarqué les mouvements de 300 hommes, et les rebelles ne risquaient pas d'accueillir la jeune garde à bras ouverts. Même s'ils partaient seuls, en hiver on avançait lentement, et il arriverait à peine plus tôt que s'il attendait le printemps. Quant à un passage sur un bateau, il ne fallait pas y compter. Avec le siège, le trafic fluvial était bloqué, comme lui, en quelque sorte. Et voilà qu'une Aes Sedai déboulait en pleine nuit, sûrement pas pour simplifier les choses.
« Voyons quelle nouvelle elle nous apporte, »
dit Gawain, en faisant signe à Rajar de descendre l'échelle. 20 chevaux et leurs selles empilées occupaient presque toute la place laissée libre par les 10 vaches laitières de maîtresse Mylin. Pour atteindre la porte, Gawain et Rajar durent se faufiler dans l'étable, rendue un peu moins glaciale par la chaleur corporelle des animaux endormis. Les 2 sentinelles qui veillaient sur les chevaux ne bronchèrent pas, mais Gawain sentit qu'elle les suivait des yeux, Rajar et lui. Informés de la venue d'une sœur, ces hommes devaient se demander ce qui se mijotait. Dans le ciel clair, la lune descendante produisait encore un peu de lumière. Tenant fermés leurs manteaux, les 2 hommes s'enfoncèrent jusqu'aux genoux dans la neige qui couvrait la route menant au village, et anciennement celle qui conduisait le Tarvalon, à une cité qui n'existait plus depuis des centaines d'années. Aujourd'hui, personne ne s'aventurait dans cette direction, sauf pour aller à Dorlan, et en hiver, il n'y avait aucune raison de s'y rendre. Traditionnellement, le village fournissait du fromage à la Tour Blanche et à personne d'autre. C'était presque un hameau, avec une quinzaine de maisons de pierre grise au toit de tuiles, et la neige atteignait le rebord des fenêtres du rez-de-chaussée. À courte distance de chaque demeure se dressait une étable. Tout était rempli d'hommes et de chevaux, en plus des vaches. À Tarvalon, la plupart des gens devaient avoir oublié l'existence de Dorlan. Qui s'intéressait à la provenance du fromage? Un endroit parfait où se cacher, jusque-là. Aucune maison n'était éclairée à part celle de Maître Burlow, dont certains volets laissaient filtrer de la lumière au rez-de-chaussée comme à l'étage. En plus d'être le maire, Garum Burlow avait la malchance de posséder la plus grande maison de Dorlan. Les villageois qui s'étaient restreints pour fournir un lit à une Aes Sedai devaient le regretter. Maître Burlow, lui, disposait en permanence de deux chambres vides, rien que ça. Tapant des pieds sur les marches du perron pour faire tomber la neige, Gawain toqua ensuite à la porte, mais personne ne lui répondit. Après un moment, il poussa le battant de bois et précéda Rajar à l'intérieur. Pour une variante de ferme, la salle commune aux poutres apparentes était grande. On y trouvait plusieurs vaisseliers pleins de poteries vernies ou d'objets en étain et une grande table entourée de chaises à haut dossier. Toutes les lampes à huile étaient allumées, une extravagance en hiver, alors que quelques chandelles de suif auraient suffi. Les bûches n'ayant pas encore pris dans la cheminée, il faisait presque aussi froid que dehors. Pourtant, les deux sœurs qui avaient une chambre à l'étage se tenaient pieds nus sur le parquet. Un manteau doublé de fourrure jeté sur leur chemise de nuit en lin, Catherine Alruddin et Tarna Feyre regardaient une petite femme en robe d'équitation sombre à rayures jaunes, dont la cape de voyage était trempée de neige jusqu'à la hanche. Collée à la grande cheminée, elle se réchauffait les mains en continuant de grelotter. À pied dans la neige, il avait dû lui falloir 2, voire 3 jours pour venir de Tarvalon, et les Aes Sedai, oui, même elle, finissaient par sentir le froid. La sœur dont avait parlé Rajar, sans nul doute. Comparé à celui des deux autres, son visage n'avait rien de sans âge. En d'autres termes, une femme des plus banales. L'absence du maire et de son épouse, même s'il s'y attendait, noua davantage l'estomac de Gawain. En dépit de l'heure, ils auraient été là, offrant aux Aes Sedai à boire et à manger si on ne les avait pas renvoyés au lit pour laisser Catherine et Tarna seules avec leurs collègues. En conséquence, Gawain pouvait faire une croix sur son désir de connaître la teneur du message, mais ça, il l'avait su avant même de quitter l'étable.
« Le batelier a promis qu'il resterait jusqu'à la fin du siège, à l'endroit où nous avons débarqué »,
était en train de dire la messagère.
« Mort de peur, il est peut-être à des lieux en aval à présent. »
Sentant un courant d'air, l'Aes Sedai se retourna, vit qui venait d'entrer, et sembla soudain un peu moins épuisée.
« Gawain Trakand, »
dit-elle,
« j'ai pour vous des ordres de la chair d'Amirlin. »
« Des ordres ?»
répéta Gawain. Histoire de temporiser, il retira ses gantelets et les glissa à sa ceinture. Pour une fois, on allait peut-être jouer carte sur table.
« Pourquoi Elaïda m'enverrait-elle des ordres ? Et si c'était le cas, au nom de quoi devrais-je lui obéir ? La jeune garde et moi, elle nous a désavoués. »
Main croisée dans le dos, en signe de respect pour les sœurs, Rajar coula un regard de biais à Gawain. Quoi qu'il dise, il ne le contredirait pas. Mais les membres de la jeune garde ne partageaient pas son point de vue. Sauf si une sœur les lui expliquait, aucun homme ne pouvait comprendre les actes des Aes Sedai. La jeune garde s'était engagée avec enthousiasme aux côtés de la Tour Blanche, embrassant son destin.
« Ça peut attendre, Narenwin !»
lança Catherine, cassante. Elle resserra sur son torse les pans de sa cape. Ses longs cheveux noirs tout emmêlés, on eût dit qu'elle s'était donné quelques coups de peigne avant de renoncer à les domestiquer. En la voyant ainsi, Gawain songea à un lynx en chasse, ou sur ses gardes, de peur de tomber dans un piège. Depuis leur arrivée, elle avait à peine accordé un regard aux deux hommes.
« Des affaires urgentes m'attendent dans la tour. Dis-moi comment localiser ce village de pêcheurs sans nom. Que ton batelier soit encore là ou pas, je trouverai quelqu'un pour me faire traverser. »«
Même chose pour moi, »
fit Tarna, menton volontaire et yeux bleus perçants comme une lame. Contrairement à Catherine, elle était coiffée à la perfection. Comme si une dame de compagnie avait brossé sa chevelure blonde avant qu'elle descende. Tout aussi tendue que Catherine, elle se contrôlait mieux.
« J'ai d'excellentes raisons de vouloir retourner à la tour sans tarder. »
Elle gratifia Gawain d'un hochement de tête, Rajar aussi, mais en moins appuyé. Une femme glacée comme le marbre dans lequel elle semblait taillée. Moins glaciale, cependant, que lorsqu'elle regardait Catherine, qui lui rendait bien sa froideur. Alors qu'elles appartenaient au même aja, il y avait entre ces deux femmes une grande raideur. Elles ne s'appréciaient pas, voire se détestaient. Avec les Aes Sedai, c'était difficile à dire. Gawain ne se désolerait pas de les voir partir. Arrivé à Dorlan le lendemain de l'apparition de la mystérieuse armée, Tarna avait tout de suite chassé Lusonia Cole de sa chambre à l'étage et relevé Kovarla Balden du commandement des 11 autres sœurs présentes au village. Des affaires d'Aes Sedai, tout ça. À la façon dont elle avait pris les choses en main, interrogeant les sœurs sur la situation et inspectant la jeune garde comme si elle était en quête de champion, Tarna aurait pu être une sœur verte. Mais elle appartenait à l'âge à rouge, et susciter son intérêt fit plus qu'inquiéter les hommes. Pire encore, elle passait chaque jour des heures à chevaucher, qu'importait le temps, à la recherche d'un habitant capable de lui dire comment rejoindre Tarvalon en traversant les rangs ennemis. Une recette infaillible pour faire venir à Dorlan des éclaireurs hostiles. Arrivée la veille, furieuse de découvrir que la route de Tarvalon était bloquée, Catherine avait relevé Tarna de son commandement et subtilisé sa chambre à Kovarla. En matière d'autorité, elle ne procédait pas comme Tarna. Se tenant loin des autres sœurs, elle évitait ainsi de devoir révéler pourquoi elle avait disparu au puits de Doumaï et où elle était allée. En revanche, elle avait aussi inspecté la jeune garde. Avec l'air d'une femme qui examine une hache dont elle compte se servir sans lésiner sur la quantité de sang versé. Gawain n'aurait pas été surpris qu'elle veuille le forcer à lui ouvrir un passage jusqu'au pont de Tarvalon. Rectification. Il serait ravi de voir partir ses femmes. Sauf qu'après, il devrait faire avec Narenwin et les ordres d'Elaïda.
« C'est à peine un village, Catherine, »
dit la messagère, toujours transie de froid.
« 3 ou 4 bicoques de pêcheurs d'Ekati, à un jour de marche en aval, par voie de terre, davantage en venant d'ici. »
Relevant ses jupes trempées, elle les exposa aux flammes.
« Nous trouverons peut-être un moyen d'expédier des messages en ville, mais nous avons besoin de vous ici. Si Elaïda a renoncé à envoyer 50 sœurs, optant finalement pour une seule, c'est parce qu'il est presque impossible qu'un bateau passe inaperçu sur le fleuve, même un petit dans le noir. » J'avoue avoir été étonné d'apprendre que des sœurs étaient si près de Tarvalon. Dans les circonstances présentes, tout Aes Sedai se trouvant hors de la ville doit...
D'une main levée, Tarna interrompit Narenwin.
Elaïda ne peut pas savoir que je suis ici.
Lèvres pincées, Catherine fronça les sourcils, mais elle laissa l'autre sœur rouge continuer.
Quel ordre t'a-t-elle donné au sujet des sœurs présentes à Dorlan?
Narenwin continua un moment à agiter ses jupes devant les flammes.
Je dois en prendre le commandement,
répondit-elle, peu amène.
Et faire au mieux.
Hésitant, elle soupira, puis corrigea.
« Les sœurs commandées par Kovarla. Mais sûrement... »
Cette fois, Catherine intervint.
« Je n'ai jamais été sous ses ordres, Narenwin. Donc, tes consignes ne s'appliquent pas à moi. Au matin, je me mettrai en quête de tes 3 ou 4 bicoques de pêcheurs. Mais assez, Narenwin !»
lâcha Catherine, glaciale.
« Pour le reste, débrouille-toi avec Kovarla. »
Elle jeta un coup d'œil à Tarna.
« J'imagine que tu pourras m'accompagner. Dans un petit bateau de pêche, il y a de la place pour deux. »
En guise de remerciement, peut-être, Tarna inclina très légèrement la tête. La question réglée, les deux sœurs rouges se détournèrent et se dirigèrent vers la porte donnant sur le reste de la maison. Vexée, Narenwin les foudroya du regard. Puis elle se tourna vers Gawain, l'air impassible comme il seyait à une Aes Sedai.
« Avez-vous des nouvelles de ma sœur ?»
demanda le jeune homme, avant qu'elle ait pu ouvrir la bouche.
« Au moins, savez-vous où elle est ?»
Narenwin était vraiment épuisé. La voyant chercher ses mots, Gawain comprit qu'elle préparait une réponse qui ne lui apprendrait rien.
« La dernière fois que je l'ai vue, »
lança Tarna par-dessus son épaule.
« Elaine était avec les rebelles. »
Tous les regards se rivèrent sur elle alors qu'elle se retournait.
« Mais votre sœur ne risque aucun châtiment. N'ayez aucune crainte. Les acceptés ne peuvent pas choisir leur allégeance. Croyez-moi, selon nos lois, elle ne subira aucun préjudice permanent. »
Cela énoncé, sans se soucier du regard glacial de Catherine et des yeux exorbités de Narenwin.
« Vous auriez pu me le dire plus tôt !»
grommela Gawain, frisant l'incorrection. Personne ne parlait deux fois ainsi à une Aes Sedai, mais il s'en fichait. Les deux autres sœurs étaient-elles surprises que Tarna connaisse la réponse à sa question ou qu'elle la lui ait donnée ?«
Et que veut dire « préjudice permanent » ?»
Tarna eut un rire rauque.
« Si elle va trop loin, je ne peux pas promettre qu'elle ne goûtera pas au fouet. Mais Elaine est une acceptée parmi d'autres, pas une Aes Sedai. Ça la protège. »
Parce qu'elle ne peut pas être lourdement punie si une sœur la détourne du droit chemin.
Je ne vous l'ai pas dit plus tôt parce que vous n'avez pas demandé. Conclusion, même si c'était en votre pouvoir, elle n'a pas besoin qu'on vole à son secours. Elle est avec des Aes Sedai. C'est tout ce que je peux vous dire. À présent, je vais essayer de dormir un peu avant que le jour se lève. Donc je vous laisse avec Narenwin.
Sans broncher, Catherine regarda l'autre sœur rouge franchir la porte. Puis elle lui emboîta le pas si vite que son manteau se gonfla dans son dos.
Tarna a dit la vérité.
Fina Renwin, quand Catherine eut disparu à son tour. En présence des deux autres Aes Sedai, la petite femme n'était pas un parangon de mystère et de sérénité. Seule, elle ne sentirait pas si mal que ça.
Elaine est liée à la Tour Blanche. Vous aussi, malgré vos histoires de désaveu. Le passé d'Andorre vous unit à la Tour.
Si la jeune garde est liée à la Tour, intervint Radjar en s'inclinant respectueusement. C'est un choix délibéré.
Narenwin ne daigna pas le regarder. Gawain ferma les yeux pour s'interdire de les frotter. La jeune garde était bel et bien liée à la Tour. Personne n'oublierait jamais qu'elle s'était battue, dans le complexe même, pour empêcher qu'on secoure une chaire d'Amerline renversée. Pour le meilleur comme pour le pire, ce fait d'armes marquerait les jeunes hommes jusqu'au tombeau. Il portait lui-même cette marque, en plus de celle de ses propres secrets. Après une boucherie, c'était lui qui avait permis à Siouan Sanche de s'enfuir. Plus important encore, Elaine le liait à la Tour, tout comme Egwene Alvéré. Quel était le nœud le plus serré? L'amour qu'il portait à sa sœur ou celui qu'il vouait à Egwene? Abandonner l'une revenait à abandonner l'autre et à trahir la Tour. Mais jusqu'à son dernier souffle, il resterait fidèle à Elaine et à Egwene.
« Je vous donne ma parole de faire tout ce que je pourrai, »
capitula-t-il.
« Quels sont les ordres d'Alaïda ?»
Au-dessus de Kemlin, dans un ciel clair, un soleil d'hiver pâlichon approchait de son zénith. Sans générer de chaleur, il projetait une assez vive lumière sur la neige qui recouvrait tout. Même s'il appréciait la doublure de Marthe de son nouveau manteau, Davram Bachéré dut admettre qu'il faisait nettement moins froid que chez lui, au Saldaea. Cela dit, son souffle gelé avait quand même ourlé de givre son épaisse moustache, encore du blanc, en plus de celui qu'avait laissé le passage des années. À une lieue au nord de Kemlin, de la neige jusqu'aux chevilles sur la butte où il était perché, Bachéré porta à son œil une longue vue à monture d'or et scruta ce qui se passait en contrebas à environ une demi-lieue de là. Pour lui signifier son impatience, son cheval bai lui flanqua un coup de naseau dans l'épaule, mais il l'ignora. Si Vélos détestait rester immobile, parfois on n'avait pas le choix. En bas, entre les arbres clairsemés, un grand camp était en cours d'installation. Le long de la route de Tarvalon, des hommes déchargeaient les chariots de vivres, creusaient des feuillets, montaient des tentes et fabriquaient avec des broussailles et des branches des abris disposés par groupes de différentes tailles. S'attendant à rester sur place un moment, les seigneurs et les dames gardaient leurs soldats à proximité de leurs tentes. Se fiant à l'étendue du camp et aux lignes de piquet prévues pour attacher les chevaux, Bachéré estima qu'il y avait dans les 5000 hommes, plus ou moins des poussières. 5000 combattants. Avec les fabricants de flèches, les maréchaux ferrants, les armuriers, les blanchisseuses et les conducteurs de chariots, on doublait ce chiffre. Mais l'intendance et les civils, selon l'usage, avaient dressé leur camp à quelque distance de là. Parmi ces gens-là, la plupart, au lieu de travailler, passaient leur temps à scruter la butte sur laquelle Bachéré se tenait. Dans l'autre camp, ça arrivait aussi, mais les porte-étendards et les sous-officiers rappelaient à l'ordre les tirs au flanc. Les nobles et les officiers qui allaient et venaient à cheval ne regardaient jamais vers le nord. Alors que Bachéré, de son perchoir, voyait les murs gris rayés d'argent de la ville, une élévation de terrain interdisait de la distinguer depuis le camp. Aucune importance. À Kemlin, on savait de quoi il retournait, puisque les nouveaux venus s'étaient annoncés à grands coups de trompettes et de bannières levées au-dessus de leur tête. Prudents, ils étaient restés hors de portée de flèches. Assiéger une ville fortifiée sur plus de 6 lieues de circonférence n'était pas un jeu d'enfant. Pour ne rien arranger, la nouvelle cité était un dédale de bâtiments de briques et de pierres, de boutiques, d'entrepôts sans fenêtres et de marchés qui s'étendaient au-delà du mur d'enceinte pour former Kemlin la Basse. Pour relever le défi, 7 autres camps étaient en cours d'installation. Répartis autour de la ville, ils permettraient de contrôler toutes les routes et les issues assez larges pour laisser sortir des forces importantes. Des patrouilles sillonnaient déjà le terrain, et des éclaireurs devaient avoir pris place dans les bâtiments abandonnés de Kemlin la Basse. À travers ce quadrillage, seuls de très petits groupes pourraient passer. Quelques bêtes de bât peut-être en pleine nuit, mais pas assez pour ravitailler une des plus grandes villes du monde. Plus que les épées et les catapultes, la faim et la maladie décidaient de l'issue d'un grand nombre de sièges. Mais en faveur de qui? Les assiégés ou les assiégeants? À première vue, quelqu'un avait planifié cette affaire-là avec soin. Pourtant, quelque chose étonnait Bachéré. Les étendards dans le camp qu'il observait. Avec sa longue vue, œuvre d'un Kyrienien nommé Tovere et cadeau de Randaltor, il les distinguait très bien dès que le vent les agitait. Familier des armoiries andoriennes, il reconnaissait le chêne et la hache de Dolin Armagne, les 5 étoiles d'argent de Dairilar Aened et les armes de plusieurs nobles mineurs qui soutenaient Naian Aron dans sa quête du trône du lion et de la couronne de rose. Certes, mais le mur rouge orné de haches croisées de Jaelin Maran était du nombre aussi, ainsi que les 2 léopards blancs de Carly Sankerin et la main ailée d'Eram Talkend. Selon les rapports, tous des fidèles d'Elenia Sarand, la rivale de Naian. Les voir en compagnie des autres revenaient à assister à un festin partagé par des loups et des chiens de berger, avec en guise de bonus un tonneau d'un grand vin. En soie épaisse et brillante, bordée d'or et faisant au moins le double des autres, 2 étendards se révélaient trop lourds pour que les bourrasques réussissent à les agiter. Plutôt, tandis que les portes-étendards paradaient sur l'élévation qui dissimulait le camp, Bachéré avait largement eu le temps de voir les armoiries. Le lion blanc d'Andorre sur fond rouge, identique à celui qui battait au vent sur toutes les tours de garde de la ville. Le second grand étendard appartenait à une autre rivale d'Elaine Trakand. 4 lunes d'argent sur champ d'azur, les armes de la maison Marne. Pour soutenir Arimilla Marne? Un mois plus tôt, elle aurait pu s'estimer chanceuse que quelqu'un, à part sa propre maison ou cet idiot de Nassim Kairen, lui offre l'asile pour la nuit. 2 étendards, et dans un cas comme dans l'autre, une revendication du trône et de la couronne.
« Ils nous ignorent, marmonna Baël. Je pourrais les exterminer avant le coucher du soleil, et ils nous ignorent. »
Bachéré eut un regard en coin pour Layel, en coin et vers le haut, parce que le guerrier le dominait d'une bonne tête. Au-dessus du voile noir qui masquait son nez et sa bouche, seuls les yeux gris de Layel étaient visibles, sous son front tanné par le soleil. Avec un peu de chance, le guerrier se protégeait simplement du froid. Muni de ses lances, bien entendu, il portait un arc dans le dos, un carquois à la taille et une ronde hache à l'avant-bras, mais seul le voile importait vraiment, car pour les Layel, l'heure de tuer n'avait pas encore sonné. 20 pas plus bas, en direction du camp, 30 autres Layel, assis sur les talons, tenaient nonchalamment leurs armes. Un tiers environ avait le visage nu. Donc, la théorie du froid se tenait. Mais avec les guerriers du désert, comment savoir? Entre différentes hypothèses, Bachéré opta pour la moins dramatique.
« Baël, Elaine Trakand n'aimerait pas ça. Et même si tu as oublié ce que ça fait d'être un jeune homme, ça suffit pour que Randaltor lui non plus n'aime pas ça. » Mais Elaine m'a répété les propos d'Elaine Trakand,
grogna Baël.
Selon elle, nous ne devons pas intervenir en sa faveur, et ce n'est pas malin. Quand un ennemi s'avance, un sage accepte l'aide de quiconque veut bien danser avec les lances à ses côtés. À la guerre, ces gens pratiquent aussi leur grand jeu. Nous sommes des étrangers, Baël. En Andorre, c'est important.
Le géant grogna de nouveau. Bachéré renonça à lui expliquer les subtilités de la politique andorienne. Si elle s'appuyait sur des étrangers, Elaine risquait de perdre ce qu'elle tentait de conquérir. Ses ennemis savaient qu'elle en avait conscience. Du coup, ils ne redoutaient ni Bachéré, ni Baël, ni la Légion du Dragon. En réalité, malgré le siège, les 2 parties feraient de leur mieux pour éviter une bataille rangée. C'était une guerre, certes, mais composée de manœuvres et d'escarmouches, si personne ne commettait d'erreur. Au bout du compte, pour vaincre, il faudrait conquérir une position inexpugnable, ou pousser l'adversaire sur un terrain impossible à défendre. À coup sûr, Baël ne verrait pas la différence avec Dais Daemar, le grand jeu des maisons. En toute franchise, Bachéré ne la distinguait pas vraiment non plus. Avec la flétrissure comme voisine, le Saldaea ne pouvait pas s'offrir des guerres de succession. Il était possible de négocier avec des tyrans, et la flétrissure tuait vite les crétins et les envieux. Une guerre civile l'aurait aidé à en finir avec le Saldaea. Bachéré recommença à sonder le camp avec sa longue vue. Comment une imbécile comme Arimilla Marne avait-elle obtenu le soutien de Naian Aron et d'Elenia, 2 femmes cupides et ambitieuses, convaincues de défendre leurs justes droits? D'après ce qu'il savait du processus de décision des Andoriens, chacune avait de plus solides arguments qu'Arimilla. Là, rien à voir avec des loups et des chiens de berger. C'était une meute de loups à la poursuite d'un chien de manchon. Elaine détenait peut-être l'explication, mais elle se contentait d'échanger avec Bachéré des notes lapidaires qui ne révélaient rien. une façon de garantir que nul ne les accuserait de conspirer en cas de malheur. Au fond, c'était très exactement le jeu des maisons.
« Quelqu'un dansera bientôt avec les lances, dirait-on, »
annonça Baël. Bachéré baissa les yeux assez longtemps pour voir ce que l'aïeul désignait. En prévision du siège, beaucoup de gens avaient quitté la ville ces derniers jours, mais certains s'y étaient pris trop tard. À la lisière de la nouvelle cité, 6 chariots étaient immobilisés sur la route. Une cinquantaine de cavaliers les entouraient, leur étendard représentant un ours en pleine course, ou un très gros chien peut-être. Tenant fermés les pans de leurs manteaux, de pauvres gens se massaient d'un côté de la voie. Des hommes à la tête baissée, des femmes avec des enfants accrochés à leurs jupes. Sous les regards accablés, des soudards avaient mis pied à terre pour piller les chariots. Sur la neige, des coffres, des caisses et des vêtements s'empilaient déjà. Comme toujours, ces types cherchaient de l'argent ou de l'alcool. Mais tout autre objet de valeur finirait dans leur fonte. Puis ils voleraient les attelages ou réquisitionneraient carrément les chariots. Une armée avait toujours besoin de chevaux et de véhicules, et les règles de cette guerre civile très spéciale ne semblaient pas protéger les malchanceux qui se trouvaient au mauvais endroit, au mauvais moment. La porte principale de la ville s'ouvrit pour laisser passer des lanciers en veste rouge, dont les armes, les casques et les plastrons brillaient au soleil. Au milieu des marchés abandonnés, les gardes de la reine fonçaient vers les chariots. Un solide détachement. Bachéré orienta de nouveau sa longue vue sur les soudards. À l'évidence, l'officier qui se tenait à l'ombre de l'ours, si c'en était un, excellait en calcul mental. 50 contre 200, ça sentait mauvais, surtout avec pour enjeu quelques minables chariots. Dès que les hommes à terre eurent sauté en selle, toute la bande détala vers le nord, en direction de la butte de Bachéré. Les victimes, en état de choc, la regardèrent un moment s'éloigner. Puis la vie reprit ses droits et elles entreprirent de récupérer leurs possessions pour les remettre à l'abri des chariots. L'arrivée des gardes, qui formèrent un cercle autour des véhicules, mit un terme à l'incident. Alors qu'ils poussaient les gens vers les chariots, certains loqueteux tentèrent de leur échapper pour récupérer un quelconque trésor. En guise de protestation, un homme agita les bras devant un officier au casque orné de plumes blanches, un baudrier rouge en travers de son plastron. Méprisant, le militaire se pencha sur sa selle et gifla le trublion, qui s'écroula sur le dos, sonné par la violence du coup. Après un moment de flottement, les retardataires grimpèrent dans les chariots, à part deux types qui se penchèrent pour prendre leur compagnon par les épaules et les chevilles afin de le porter à l'abri. Sur le siège du dernier chariot, une femme agitait déjà ses rênes pour faire demi-tour et retourner vers la cité. Bachéré baissa sa longue vue, s'intéressa au camp, puis utilisa de nouveau le dispositif optique. Des soldats creusaient toujours avec des pelles et des pioches, et d'autres, autour des chariots, s'échinaient à décharger des gros sacs et de lourds tonneaux. Les nobles et les officiers, toujours à cheval, surveillaient le déroulement des opérations. Une scène presque paisible, comme un troupeau au pâturage. Soudain, quelqu'un désigna l'élévation, juste en deçà de la cité. D'autres soldats l'imitèrent, puis des cavaliers se lancèrent au trot en criant des ordres. Venant de la ville, les soudards chassés par les gardes apparaissaient au sommet de l'élévation. Sa longue vue glissée sous le bras, Bachéré fronça les sourcils. Il n'y avait pas de sentinelle en hauteur pour voir ce qui se passait au-delà de cet obstacle? Même s'il n'y avait aucune attaque massive à redouter, c'était stupide. Une bonne chose à savoir si les autres camps se montraient aussi négligents et ne corrigeaient pas cette erreur. Bachéré souffla d'agacement dans sa moustache. Il n'était pas là pour s'en prendre aux assiégeants. D'un coup d'œil, il vit que les chariots, escortés par les gardes royaux, approchaient à toute allure des portes. On eût dit que ces gens avaient des poursuivants sur les talons. Ou était-ce l'influence de l'officier, qui agitait son épée au-dessus de sa tête ?
« Personne ne dansera aujourd'hui, » dit Bachéré.
« Dans ce cas, j'ai mieux à faire que regarder des gens des terres mouillées creuser des trous, » répliqua Baël. « Puisses-tu toujours trouver de l'eau et de l'ombre, d'Avram Bachéré ?»
« Pour l'heure, je préférais avoir les pieds au sec et les mains au-dessus d'un bon feu. »
Une saillie que Bachéré regretta aussitôt. Traiter par-dessus la jambe les coutumes des autres était un bon moyen de se faire tuer, surtout avec les aïels très à cheval sur leur rituel. Mais Baël éclata de rire.
« Les terres mouillées montent tout cul par-dessus tête, d'Avram Bachéré. »
D'un curieux geste de la main droite, l'aïel ordonna à ses compagnons de se lever. Partant en direction de l'est, ils donnèrent le sentiment de se jouer de la neige. Bachéré rangea la longue vue dans ses fontes, se hissa en selle et fila dans la direction opposée. Posté sur cette pente-là, son escorte attendit qu'il ait dépassé, puis lui emboîta le pas. Moins nombreux que ceux de Baël, ses gardes rapprochés, des types endurcis, venaient tous de son domaine de Tyr, et il l'avait plus d'une fois accompagné dans la flétrissure, avant cette expédition au sud. Chaque homme ayant une zone complète à surveiller, devant, derrière, à droite, à gauche, en haut, en bas, toutes ses têtes bougeaient sans cesse. Restait à espérer que la routine ne nuirait pas à la vigilance. Dans une forêt très peu dense, toutes les branches étaient nues, sauf celles des chênes, des lauréoles, des pins et des sapins. Mais sur un terrain vallonné couvert de neige, une centaine de cavaliers pouvaient se tenir à 50 pas sans qu'on les voie. Non qu'une telle occurrence soit vraisemblable, mais en règle générale, on ne prévoyait jamais ce qui finissait par vous tuer. D'instinct, Bachéré vérifia que son épée coulissait bien dans son fourreau. Le secret, c'était de s'attendre à l'inattendu. Comme chaque fois que son chef n'avait rien de plus important à lui déléguer, Toumad commandait le détachement. Bachéré avait pris sous son aile ce jeune lieutenant. L'esprit vif, capable de voir bien plus loin que le bout de son nez, Toumad finirait couvert de galons, s'il vivait assez longtemps pour ça. Un peu plus petit que Baël, donc bien plus grand que la moyenne, il était d'humeur morose et ne faisait rien pour le cacher.
« Un problème, Toumad ?»«
L'aïel parlait d'or, seigneur. Ces andoriens nous crachent à la figure. Je déteste devoir détaler alors qu'ils se moquent de nous. »
« Un jeune lieutenant, oui.
»« Tu t'ennuies ?» railla Bachéré. « Il te faudrait un peu d'action. Ténobia n'est qu'à 50 lieues au nord d'ici, et si on peut en croire les rumeurs, elle a avec elle Éteniel du Candor, Païtar de l'Arafel et Éhazar du Chiénard. Toute la puissance des terres frontalières vient à notre rencontre, Toumad. D'après ce qu'on dit, les Andoriens infiltrés au Mourandi n'aiment pas nous savoir chez eux. Si l'armée des Aes Sedai ne les taille pas en pièces, en supposant que ce ne soit pas fait, ils pourraient venir nous chercher des noises. Nous avons chevauché pour le dragon réincarné, et ça, les sœurs ne nous le pardonneront pas. Enfin, il y a les Séanchaniens. Tu crois qu'ils ne se remontreront plus? Ils nous attaqueront, ou nous devrons les attaquer, c'est une certitude. Vous, les jeunes, vous ne savez pas reconnaître l'action, même quand elle vous frise la moustache.
Des rires montèrent dans les rangs, composés d'hommes de l'âge de Bachéré en grande partie. Toumad lui-même s'autorisa à sourire dans sa barbe. Tous ces soldats n'étaient pas à leur première campagne, même s'il s'agissait de la plus bizarre de toutes. Droit sur sa selle, Bachéré inspecta le terrain entre les arbres, mais sans se concentrer vraiment. En toute franchise, Ténobia l'inquiétait pour de bon. Seule la lumière savait pourquoi Éhassar et les autres avaient décidé d'abandonner la frontière de la flétrissure, en emmenant un nombre considérable de soldats selon les rumeurs. Et même si on les divisait par deux, ces rumeurs restaient impressionnantes. Sans nul doute, ces hommes avaient d'excellentes raisons d'agir. Et Ténobia les partageait. Bachéré lui avait appris l'équitation, puis il l'avait regardé grandir avant de lui remettre la couronne brisée quand elle était montée sur le trône. Une bonne dirigeante, ni trop dure ni trop douce, intelligente, sans être toujours sage, courageuse mais pas téméraire. Son seul défaut, l'impulsivité. Une tête brûlée même, et parfois pire que ça. Bachéré aurait juré qu'elle avait un objectif secret, en plus de celui de ses alliés. Avoir la tête de son oncle, à savoir lui-même. S'il ne se trompait pas, après être allée si loin, elle ne se contenterait pas de lui infliger une autre période d'exil. Quand elle rongeait un os depuis longtemps, la convaincre de le lâcher tenait de l'exploit, le cœur même du problème. Elle aurait dû être au Saldaïa, veillant sur la frontière avec la flétrissure. Mais après tout, lui aussi. Pour ses actes, depuis son arrivée dans le sud, elle avait de quoi le faire condamner 2 fois pour trahison. Sans doute. Mais il ne voyait pas comment il aurait pu agir autrement. La rébellion, un terme à la définition très floue quand ça arrangeait Ténobia, lui faisait horreur. Mais il tenait à garder encore un peu la tête sur les épaules. Un problème, oui, et épineux. Le camp qui abritait les quelques 8000 cavaliers légers qu'il avait amenés après Liliane et la bataille contre les Séanchaniens était plus grand que celui qu'il venait d'observer, et beaucoup mieux organisé. Ici, les piquets des chevaux formaient des rangées bien nettes, avec la forge d'un maréchal ferrant à chaque extrémité. Dans le même ordre d'idées, les tentes, bien que maintes fois rapiécées, s'alignaient avec une perfection maniaque en face des piquets. Ainsi, après une sonnerie de trompette, le temps de compter jusqu'à 50, et chaque homme pouvait être en selle et prêt à se battre. Judicieusement postés, les sentinelles garantissaient qu'on soit toujours alerté dans les limites de ce délai. le camp des civils, à une centaine de pas plus au sud, était mieux ordonné que celui des autres assiégeants, à croire que l'exemple du Saldaïa avait inspiré ces gens. Quand Bachéré arriva avec son escorte, des hommes couraient entre les lignes de piquet, comme si on venait de donner l'alerte. D'ailleurs, plus d'un avait sa lame au clair. Des voix crièrent le nom du maréchal, mais quand il avisa la foule massée au centre du camp, là où se dressait la tente qu'il partageait avec Deïra, des femmes pour l'essentiel, l'angoisse lui noua l'estomac. Talonnant véloce, il se lança au galop, sans se demander si ses hommes le suivaient ou non. Alors que le sang battait à ses tempes, il perdit conscience de tout, à part des gens qui se pressaient devant sa tente. Quand il l'eut atteinte, il sauta de sa selle, se reçut souplement et partit à la course. Des femmes lui parlèrent, mais il ne comprit rien à ce qu'elles disaient. S'écartant devant lui, elles lui épargnèrent la tâche de les renverser comme des quilles pour gagner son fief. Une fois entré, il prit le temps de souffler. La tente, un pavillon plutôt, était assez grande pour qu'on y cantonne 20 soldats. Des épouses d'officiers s'y entassaient, mais il repéra Deïra, sa femme, assise sur une chaise de campagne, au centre des tapis qui couvraient le sol. Aussitôt, l'angoisse se dissipa. Deïra quitterait un jour ce monde, il ne se berçait pas d'illusions. Quant à lui, il la suivrait ou bien la précéderait. Mais sa seule terreur, c'était de vivre sans elle. Justement, des femmes aidaient Deïra à abaisser sa robe jusqu'à la taille. Une autre appuyait sur son avant-bras gauche un carré de tissu qui s'imbibait de sang. Posée sur le tapis, une coupe récupérait le fluide vital, et elle était déjà bien remplie. Dès qu'elle vit son mari, les yeux de Deïra s'illuminèrent, un contraste saisissant avec son teint blafard.
« Voilà le résultat, quand on engage des étrangers, mon époux. »
De la main droite, Deïra brandit une longue dague, plus grande que Bachéré, de peu cependant, ses cheveux noirs blanchissant sur les tempes, elle en imposait au premier coup d'œil, et pouvait glacer les sangs de quelqu'un quand elle était en colère, même lorsqu'elle n'était pas en état de tenir sur ses jambes, comme aujourd'hui. Au milieu d'autres femmes et devant son mari, plus d'une épouse aurait été gênée d'être à demi dévêtue, pas Deïra.
« Si tu ne voulais pas toujours être plus rapide que le vent, »
fit-elle,
« des hommes de ton domaine pourraient s'occuper de nous. »
« Une dispute avec les domestiques ?» demanda Bachéré, surpris. « Tu en es arrivé à jouer de la dague ?»
Plusieurs femmes foudroyèrent le maréchal du regard. En dépit des apparences, très peu de couples s'entendaient comme Deïra et lui. En particulier, ils ne se criaient jamais après, et certaines personnes trouvaient ça suspect. Deïra ne put retenir un petit rire.
« Je vais commencer par le commencement, Davram, en avançant doucement, pour que tu comprennes bien. » De retour d'une promenade à cheval, je suis tombé sur deux hommes qui fouillaient notre tente. Vu qu'ils étaient armés, j'en ai frappé un et j'ai poignardé l'autre.
Deïra baissa les yeux sur son bras blessé.
Trop lentement, puisqu'il a eu le temps de me toucher. Quand Zavion et quelques autres ont déboulé, les deux ennemis ont filé par l'ouverture qu'ils s'étaient ménagée à l'arrière de la tente.
L'air sombre, plusieurs femmes portèrent les mains sur les dagues pendues à leur ceinture.
J'ai dit à ces gens de les poursuivre,
reprit Deïra.
Mais ils ont prétendu vouloir soigner mes blessures d'abord.
Dans l'assistance, on eut le rouge aux joues, et encore pas tout le monde. Mais personne ne s'excusa d'avoir désobéi. De fait, la position de ces gens n'était guère enviable. Deïra était leur maîtresse et leur suzeraine, mais ce qu'elle prenait pour une égratignure aurait pu la vider de son sang s'il l'avait abandonnée.
J'ai ordonné qu'on lance des recherches. Ces types seront faciles à reconnaître. L'un est bossu, et l'autre saigne comme un goré.
Dame de Gaor, Zavion pour ses amis, brandit une aiguille menaçante.
« Seigneur, sauf si la chirurgie vous fascine soudain, je vous suggère de sortir. »
Bachéré acquiesça sous le regard critique des femmes. Quand elle se faisait recoudre, Deïra adorait qu'il assiste à l'opération. Lui, il détestait ça, un spectacle qui lui serrait le cœur. Une fois dehors, il annonça d'une voix puissante que sa femme était entre de bonnes mains et que tout le monde devrait retourner à ses occupations. Les hommes obéirent, après avoir souhaité un prompt rétablissement à Dame Bachéré. Les femmes, en revanche, ne bougèrent pas d'un pouce. Bachéré n'insista pas. Quoi qu'ils disent, elle ne partirait pas avant d'avoir vu Deïra. Un sage, avait-il fini par comprendre, se devait d'éviter les batailles perdues d'avance. Une bonne façon d'échapper au ridicule. Dehors, Toumad emboîta le pas à son chef, qui marcha à grandes enjambées, les mains croisées dans le dos. Depuis beau temps, le maréchal s'attendait à un événement de ce genre. À force, il avait fini par croire que ça n'arriverait pas. Et surtout, il n'avait jamais pensé que Deïra serait en danger de mort.
« On a trouvé les deux hommes, seigneur, » annonça Toumad. « Du moins,
Ils correspondent à la description de votre épouse. »
Bachéré se retournant, des éclairs dans les yeux, le jeune homme s'empressa d'ajouter.
« Ils étaient morts, seigneur, juste à la lisière du camp. Chacun tué d'un seul coup d'une lame fine. La carotide, vous comprenez? Il ne devait pas y avoir qu'un seul assassin, sauf s'il est plus rapide qu'une vipère. »
Bachéré acquiesça. L'échec, souvent, se payait au prix fort. Deux pour fouiller la tente, et combien pour les réduire au silence? Combien restait-il d'ennemis? Et quand repasserait-il à l'action? Plus important encore, qui tirait leurs ficelles? La tour blanche? Les rejetés? À son sujet, quelqu'un semblait être parvenu à une décision. À part Toumad, personne ne pouvait l'entendre. Il parla pourtant à voix basse. Parfois, la négligence se payait elle aussi au prix fort.
« Tu sais où trouver l'homme qui est venu me voir hier? Va lui dire que c'est d'accord, mais qu'il y en aura un peu plus que prévu. »
Les petits flocons qui tombaient sur la cité de Kairienne voilaient à peine la lumière du jour. Derrière une fenêtre étroite du palais du soleil, bien protégée par une vitre épaisse, Samitsu distinguait très clairement l'échafaudage de bois mis en place le long de la section dévastée du complexe. Des blocs de pierre jonchaient le sol au pied des tours décapitées, désormais un peu plus petites que les autres. L'une d'entre elles, la tour du soleil levant, avait même totalement disparu. Perchées sur les plus grandes collines, les célèbres tours tronquées de Kairienne restaient visibles derrière le rideau de neige. Plus hautes que celles du palais et entourées d'un échafaudage, elles attendaient d'être entièrement reconstruites, 20 ans après que les aïeuls les eurent incendiées, et il faudrait sans doute aussi longtemps pour que le travail soit achevé. Par un temps pareil, les échafaudages étaient déserts, bien entendu. Samitsu aurait donné cher pour que la neige lui offre un répit de ce genre. Lors du départ de Katsuane, une semaine plus tôt, la mission qu'elle lui avait laissée paraissait claire. Faire en sorte que le chaudron kairienien ne recommence pas à bouillir. Même si Samitsu était novice en politique, ça ne semblait pas infaisable. Seul noble encore à la tête d'une force importante, Dobrein se montrait coopératif, comme s'il voulait que le calme règne. Une démarche logique, puisqu'il avait accepté une absurde nomination au poste de régent de Kairienne pour le compte du dragon réincarné. Ce fichu garçon avait aussi bombardé régent de Théar, un homme qui le combattait encore un mois plus tôt. S'il avait fait pareil en Iliane, ce qui semblait probable, ces nominations provoqueraient trop de troubles pour que les sœurs puissent les régler avant que tout ait été dit et fait. Mais les problèmes, c'était la spécialité du garçon. Jusque-là, cependant, Dobrein se limitait à diriger la capitale et à soutenir Elaine Trakand si elle se décidait un jour à revendiquer le trône du soleil. Se fichant de qui récupérerait le pouvoir, Samitsu était ravi de ne pas s'en mêler. Pour être franche, le destin de Kairienne ne l'intéressait pas. Des bourrasques firent tourbillonner les flocons de neige dehors. Un paysage si tranquille. Par le passé, avait-elle accordé la moindre importance à cette notion? Si oui, elle ne s'en souvenait pas. La conquête du trône par Elaine Trakand et le nouveau titre de Dobrein ne parvenaient pas à être aussi consternant que la rumeur ridicule mais persistante au sujet de Rand Altor, qui serait allé à Tarvalon, prétendait-on, pour jurer allégeance à Elaïda. Samitsu n'avait rien fait pour rétablir la vérité. Des nobles jusqu'aux palefreniers, cette fable effrayait tout le monde. Pour maintenir la paix, rien de mieux que la peur. Le grand jeu marquait une pause, et pour Kairienne, c'était une bonne chose.